Voilà, je suis désolé de ne pas pouvoir écrire au tableau, mais vous allez faire un effort de tir sur les lignes. Sur les...
Là, ça commence à lâcher.
Alors, vous savez que, le... en général, l'Aftara d'une paracha, ou d'une sidra, comme on peut dire, prend un thème analogue à celui de la paracha, de la sidra, chez les prophètes. Mais une raison historique qui est réelle, c'est la raison officielle, j'arrive à l'entendre quand même, oui, qui est qu'il y a eu des époques, et c'était déjà dans l'exil de Babel, et quand la Perse occupait le pays, où il y avait interdiction de lire la paracha de la semaine. Vous savez d'ailleurs qu'à l'origine, on lisait l'ensemble de la Torah en 3 ans, c'était le cycle de Ezra. Ce n'est qu'un peu plus tard qu'on a décidé de le lire pendant 1 an, de telle sorte que dans une vie humaine, on ait le temps quand même, avant 70 ans, à l'investir, d'avoir le contenu de tout le chumash en tête. Et quoi qu'il en soit, il y a eu des époques, et pas seulement les Perses, il me semble que les Grecs aussi par la suite ont interdit de lire le Shabbat et les Perses, la Torah, mais ils ont permis les prophètes. Il y a certainement donc aussi des problèmes idéologiques, théologiques. Vous avez remarqué cela, que quand les goïs acceptent la Bible, comme ils disent, ils acceptent les prophètes, mais pas la Torah. Ça va un peu dans ce sens-là. Alors, donc, les rabbins ont décidé, pour pas que les thèmes d'enseignement du Mikra, c'est-à-dire du texte et le récit de la Torah, ne se perdent. Vous rappelez, nous avons dû étudier ça d'autre part, qu'il y a une mitzvah particulière d'étudier la Torah, dans ce qui nous entend nous maintenant l'étude de la paracha, c'est-à-dire d'étudier le texte de la Torah. Le Talmud Torah, pouvons en parler, l'étude de la Torah, pour connaître la Torah comme loi et sa manière de l'appliquer, c'est le Talmud. Et donc, pour réaliser la mitzvah de Talmud Torah, on étudie le Talmud. C'est pour ça qu'il s'appelle Talmud Torah. Mais il y avait d'autre part une mitzvah qui est créée à la Torah d'étudier le mikra comme mikra. Les mots sont évidemment clairs. C'est-à-dire, peut-être que je peux avoir une assérée de la sorte. Donc je vous en parlerai très rapidement aussi de cela. C'est-à-dire, l'étude du Chumash comme récit, l'étude du Chumash comme texte qui raconte l'histoire d'Israël depuis le commencement. Jusqu'au moment de la sortie d'Égypte, cet Israël, à qui la Torah comme loi, a été donné. Et c'est très différent d'étudier le verset en tant qu'il fait partie du récit, du mikra, que d'étudier le verset pour savoir comment appliquer ce qu'il demande. Ça, c'est le Talmud Torah qu'on étudie avec le Talmud. Est-ce que je suis arrivé à faire comprendre la différence? Pendant longtemps, cette mitzvah d'étudier la Torah comme chumash, c'est-à-dire chumash, si vous voulez, c'est... L'expression réelle, c'est Hamisha Khumshe Torah. Hamisha Khumshe Torah, ça veut dire les 5/5 de la Torah, puisque la Torah est divisée en 5 livres. Et l'utilisation actuelle du mot Chumash est fautive. On dit le Chumash, ça veut dire le Hamisha Khumshe Torah. En réalité, le Chumash, c'est chaque livre de la Torah s'appelle un Chumash. Chumash Bereshit, Chumash Shemot, Chumash Vayikra, on connaît ça. On a fait l'idée de dire le Chumash. Mais ça veut dire les Hamisha Khumshe Torah. Et d'ailleurs, je me rappelle quand j'étais au Talmud Torah, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, hier. On disait la Torah, on ne disait pas le Chumash. Mais je crois que les Ashkenazim ont pris l'habitude de dire le Chumash. Mais retenez bien qu'il y a eu une espèce de. Il n'y a pas une petite dans cette. Hein? Bon, d'accord. Et je cite un peu tout de suite. Et à ce sujet. Et à la longue, surtout dans les yeshivot du monde ashkenaz, cette mitzvah d'étudier le chumash pour le chumash, c'était un peu perdu, non, mais enfin, c'était un peu délaissé. Si on dit. Et alors, il a fallu attendre le Maharal pour que cette mitzvah d'étudier le chumash comme chumash soit réintégrée dans le monde ashkenaz. C'est pourquoi on appelle en général, enfin chez les spécialistes du folklore, je ne sais pas comment ça appelle ça, mais bon, il y a des chaires entières à l'université pour ça, la chita du Maharal. Alors c'était la chita du Talmud Torah depuis toujours. Au Khéder, comme on dit, on a étudié le chumash pour le chumash. La mitzvah va qui va, c'est que la veille de chaque Shabbat, je pense que vous savez cette règle, la veille de chaque Shabbat, à partir du jeudi, on lit le texte de la paracha avant Shabbat, deux fois le verset en hébreu et une fois dans le targum araméen. Vous connaissez cette mise-là ? J'ai toujours peur de dire les mises-là que vous ne connaissez pas, parce que tant que vous ne les connaissez pas, vous n'êtes pas de remords, mais vous les connaissez. C'est moi qui ai mis le rebelle de ça. Bon, alors vous connaissez les mises-là de plus. Avant chaque Shabbat, on lit, ça s'appelle Shnaï Mikra Vechat Targum. Vous connaissez ça ? Retenez, Shnaï Mikra Vechat Targum. Et très rapidement, enfin récemment, malgré tout, Rachid, ça fait à peine un millénaire, on peut lire Shnaï Mikra Vechad Rashi à la place du Targum. Pourquoi ? Parce qu'on a demandé deux fois le texte hébreu et une fois le Targum pour avoir une traduction, pour ce qui s'appelle l'hébreu. Mais maintenant, le Targum, il faudrait aussi avoir une traduction. Alors, avec Rashi, la halakha est accomplie. Et je ne sais pas si je dois dire, puisque Rashi a écrit en français, qu'on peut lire le Rashi en français si on ne comprend pas l'hébreu. Enfin, on peut aussi le lire pour l'apprendre par cœur jusqu'au moment où on le comprend. Vous avez compris. À quoi ça ressemble ? Vous savez que dans la communauté des juifs, le deuxième soir de Pessah, on lisait la Haggadah en hébreu et dans la langue du pays. Et dans beaucoup de familles, on le lit en hébreu et dans la langue du pays des ancêtres qu'on ne comprend plus, et alors qu'il faudrait le lire dans la langue qu'on comprend. Par exemple, vous venez le cas de famille type d'Afrique du Nord en France, le deuxième soir de Pessah, qui lit en hébreu, en arabe, en judéo espagnol, qui n'ont même plus ni l'arabe ni judéo espagnol, alors qu'il devrait lire en français. Alors, je comprends qu'on tient aux traditions et que le lire en arabe et en judéo espagnol, c'est très bien, mais il faudrait aussi le lire en français pour ce qu'il a fallu. Vous avez compris ça ressemble à ça. Et alors, pourquoi je vous ai parlé de ça ? Alors, donc pour la parole. Oui. Et alors, pour pas que cette mitzvah, qui est aujourd'hui la mitzvah de Kriyat HaTorah, le Shabbat, les fêtes à la synagogue, et qui a pour objet de ce qu'on connaît, le contenu du récit de la Torah comme tel, mitzvah. Et alors on a donc, au moment où il y avait cette révolte, c'est interdit de lire la Torah dans les communautés, on a choisi dans les prophètes des textes qui avaient le même thème que la Torah. Maintenant, avant d'aller plus loin, je vais préciser, c'est la raison pour laquelle vous pouvez trouver dans les trois grands rites, qui sont le rite ashkenaz, le rite sfarad et le rite italien. Maintenant, il y a peu de fidèles du rite italien, mais c'était un très grand rite, ça, je pense que vous le savez. Des Astaroth un peu différentes dans telle ou telle sidroth, parce qu'on a voulu, dans telle ou telle tradition, mettre l'accent sur tel ou tel autre thème de la paracha dans la convergence avec le contenu de l'Arta. Maintenant, les kabbalistes enseignent que même s'il n'y avait pas eu ces gueroth d'interdire de lire la Torah alors on a institué la lecture de la paracha, il y aurait quand même la lecture de l'Arta, il y aurait quand même la lecture de l'Arta. Et même dans des temps plus anciens, chaque Shabbat, on lisait des passages de la Torah, correspondant à la semaine en question, l'Aftara, et aussi des Ktuvim. En fait, vous connaissez le livre qui s'appelle Chokhmei Israël. Vous connaissez ce livre-là ? Chokhmei Israël. Attends, on va faire un petit test. Qui ne connaît pas ? Bon, alors je vais encore vous donner des cauchemars. Il y a un livre qui s'appelle Chokhmei Israël qui a rassemblé les différents textes qu'on doit dire en préparation du Shabbat chaque jour. Un petit morceau de Torah, un petit morceau d'Astara, un petit morceau de Psaume, un petit morceau des autres fruits, un petit morceau de Mishnah, un petit morceau de Midrash, un petit morceau de Torah. Alors on peut se demander comment vos ancêtres avaient une capacité de vie, parce que quand on consulte aussi les menus traditionnels de nos vies, vous vivez à des niveaux d'intensité qui nous dépassent. Alors en tout cas, dans toutes les familles traditionnelles, il y a différentes éditions du Chokhmei Israël, mais parmi elles, le Chokhmei Israël tenait la même place que le Sidour. Et on lisait le Chokhmei Israël après déjeuner ou après dîner, chaque jour. Je ne m'arrête pas parce que... Alors je vais prendre ce midrash qui est dans la psikta. Et d'abord une petite introduction. Entre Shiva, Sarvetamuz et Shavéav, il y a trois semaines, il y a trois textes de prophètes qui ne correspondent pas à la paracha en question, qui sont choisis pour eux-mêmes, et qui sont les textes de Tochacha. Tochacha, ça veut dire les admonestations des prophètes. Admonestation, c'est en français du même. Comment on peut traduire ça? Tochacha, réprimande. Et puis, ça fait entre Shirazar, le Tzéphanouz et le Nahab. Entre le Nahab et Rosh Hashanah, il y a sept Haftarot qu'on appelle Shivra de Nechamita, c'est-à-dire Nechama, c'est-à-dire de consolation. Il y a les sept Haftarot de consolation. Alors, il y a dans la psyché, vous allez suivre avec moi le premier verset de chacune de ces sept Haftarot avant qu'on aborde la Sidra de la semaine. Vous allez prendre le chronique vers la page 9, ou la page 7, pendant l'Haftarot de Vaikhanan. Alors nous allons suivre, d'après ces mirages, les degrés de la consolation. Tisha B'Av, vous rappelez, c'est la destruction du temple, et jusqu'à Rosh Hashanah, qui est le commencement de l'année qui va suivre, il y a donc toute une période de consolation de ce qui s'est passé à Tisha B'Av. Première Haftara, l'Haftara de la paracha de Vaikhanan, ce Shabbat qui suit Tisha B'Av, on ne l'appelle pas Shabbat Vaikhanan, on l'appelle Shabbat Nachamu. C'est-à-dire, on prend le premier mot de l'Aftara. Qu'est-ce que dit le verset ? Nachamu, Nachamu, Ami, Yomar et Lokachem. Consolez, consolez mon peuple, dira ou dit votre Dieu. Alors, il y a un miracle en particulier sur ce verset qui nous demande de ne pas lire Nachamu, Nachamu, Ami, mais Nachamu, Nachamu, Ami. Consolez mon peuple avec moi. Ça veut dire que Dieu demande qu'on console son peuple et lui-même de ce qui est arrivé à Tisha B'Av. Alors, d'après le Midrash que je cite, la réaction de Knesset d'Israël, de l'Assemblée d'Israël, nous allons la lire dans le premier verset de la Haftara qui suit, mais d'abord je vais expliquer, c'est que Dieu demande au prophète de consoler Israël et de le consoler lui-même. Ça veut dire qu'au fond, ce qui est arrivé est inconsolable par Dieu lui-même. Nahamu, Nahamu, c'est-à-dire c'est Dieu qui demande qui peut nous consoler, Israël et moi. C'est clair jusque-là ? Pourquoi il y a deux fois le mot Nahamu ? Alors, réponse de la Knesset d'Israël, vous l'avez dans la Haftara de Ekev qui suit à la page 11. Je lis le verset. La Tomer Tzion, Azavani Hashem, Badonai Shechechad. Et Tzion a dit Hashem m'a abandonné. Et Adonai, mon Seigneur, m'a oublié. Alors c'est relié au premier verset de la paracha précédente. Si Dieu demande au prophète de consoler Tion, alors Tion répond, Dieu m'a abandonné, c'est pas lui qui me console. Suivez. Alors, troisième Haftara, et c'est Dieu qui s'adresse à Israël en lui disant, Ania Sohara Lonuchama. Toi, Tion, Israël, qui est comme une Ania, une personne humble, pauvre, quelqu'un qui s'arrête maintenant parce que quand même il y a des écoutes. Quelqu'un qui s'arrête. Alors il s'adresse, et c'est Dieu qui s'adresse à Israël en lui disant, toi qui es Ania Sohara, Sohara ça veut dire dans un état comme dans une tempête, c'est Sohara qui est écrit avec parfois ça meurt, parfois si. Et quand on est dans un état d'agitation, dans cette situation, parce qu'on n'a pas de consolation encore. Alors Dieu s'adresse à Israël, vous suivez, c'est suffisamment traduit, Ania Sohara Lonuchama, qui n'est pas consolé. Et pourquoi elle n'est pas consolée? Parce que sa réaction a été de dire, tu m'envoies des prophètes pour me consoler, je ne suis pas consolé. C'est inconsolable. Il n'y a nochi n'abri papou khalanaïf, moi je te promets que j'enjoliverai des pierres avec des plumes, du V, du saphir, je te fondrai sur des saphirs, Et ça me dit que quand il faut taïr, c'est-à-dire c'est Dieu qui se décide à s'adresser à Israël pour dire c'est moi qui vais m'occuper de toi. Et c'est confirmé dans la Haftara suivante. Anochi, Anochi, ou Menachemre. C'est moi-même, qui sera votre consolateur. Vous voyez comment ça se suit dans ce lien. Ensuite, Haftara de Kitetse, Romi et Akara Loyalada chante. Toi qui étais stérile de ne pas avoir enfanté, Pitzri Rina avec Sahali, éclate d'allégresse avec Sahali et d'allégresse, de joie, dès qu'il y a un remède à Sahal, déjà, enfin, c'est tout de suite. Et Rabbi Benechomema, Benebeaoula, Amarashé. car seront plus nombreux les fils de celle qui a été abandonnée, et la Israël, ni Bene Beaoula, que les fils de celle qui est mariée, la diaspora, à Maraché, à Dieu. Vous voyez comment ça se fait. Et après, on arrive à la paracha de tout à l'heure, Kour Uri qui bat Orech. Lève-toi, brille, car est venue ta lumière. Faites attention, hein. Kour Uri, Uri est un verbe ici, c'est pas ma lumière. Hein. C'est le mot, le verbe qui veut dire resplendis de lumière. C'est l'impératif. Kour Uri qui bat Orech, car ta lumière vient. Kour Hashem alaïr vera. Et c'est la gloire de Dieu lui-même qui brille sur toi. Et à la fin, la réponse de Knesset d'Israël, ça sera la troisième Haftara, l'Haftara d'avant au Shana, sauf Assis Bachem. Alors Israël dit, réjouis de me rejouer en Dieu, ta belle marche de l'Okaï. Vous voyez donc cette dialectique de la consolation. Ça, c'est bien juste là. Et bon, on a pas pris trop de temps quand même. Après, peut-être. C'est un des récits d'avant au Shana, on étudiera la Haftara de Vaïeler, qui porte sur la Shuvah. Qui est le Shabbat entre Shana et Kippour, et qui porte sur la Shuvah, et qui commence par Shuvah Israël, Adachem et Nokicha, et Kachacha, Vaïeler. Bien. Alors, reprenons maintenant notre paracha, nous, la paracha de Kitabo. C'est ça que vous avez donné? Pardon? Pareil. J'ai encore un livre là pour ceux qui en ont. Tu as trouvé d'autres devrines? Il n'y en a plus? Non. Oui, les chimériques, j'allais. Parce que dans telle ou telle tradition, on a appliqué la même règle, mais on a choisi, disons, dans une paracha, il y a plusieurs thèmes. Alors on a choisi un autre thème de la même paracha. Ça vous montre que, vous savez, oui, depuis très longtemps, je vais vous dire. Très grosso modo, ça c'est pas notre sujet, on risque de prendre trop de temps. On croit à tort qu'il n'y a que deux grands rites, le rite ashkénaze et le rite sfarade. En réalité, le monde ashkénaze lui-même est très diversifié. Il y a différents rites dans le monde ashkénaze, le monde sfarade lui-même est très diversifié, et il y a d'autres grands rites de ces deux embranchements, en particulier le rite italien. Il y avait aussi un rite français qui s'est perdu, probablement à partir des croisades. Qu'on appelle le marqueur de Vitry, et qui était le rite des grandes communautés de France du Nord, en particulier le rite de l'école de Rachy. C'était un rite François. Ce qu'on appelle le rite français aujourd'hui, c'est le résultat d'un mélange extraordinaire des différentes vagues d'immigration qui sont arrivées en France. Et d'autre part, le rite babylonien et le rite yéménite, qui sont les grands embruns. Très rapidement, et là je brosse une histoire de 2000 ans, les communautés qui se sont trouvées dans l'Empire chrétien, quelle que soit leur origine, premier temple, deuxième temple, ont adopté en dominant le rite de la communauté la plus forte, qui était la communauté d'Allemagne, plus exactement de l'Autharingie, ce qu'on appelait Arcet-Ashkenaz. Vous rappelez que c'était la Lotharingie. Et les communautés qui se trouvaient dans l'Empire musulman, que ce soit Babylone, Thémanine, Nord-Africain, ont fini par adopter en dominant le rite sfarade des Juifs d'Espagne. Ça ne signifie pas que tous les Ashkenazim soient des Ashkenazim, il n'y a que les Allemands, les cultures allemandes qui étaient vraiment des Ashkenazim. Ça ne signifie pas que les Sfaradim sont des Sfaradim, il n'y a que les Espagnols qui sont des Sfaradim. Mais étant donné que l'ensemble du monde juif a été pendant des siècles, il y avait des communications, mais vraiment héroïques, ils ont dit, les livres passés. Pour moi, ça a été toujours un mystère. J'ai étudié enfant, comme le Torah chez mon père, les livres des Ashkenazim. Et quand j'ai rencontré des Ashkenazim, mon cher, on m'a dit, quoi ça dit? On croyait qu'il y avait des livres. Vous voyez ce que je dis? Et réciproquement, mais. Et puis, c'est-à-dire, on a vécu il y a 40-50 ans, une période assez exceptionnelle dans l'histoire mythologique, quand les tribus ont commencé à se retrouver, après 2000 ans, parfois après 2600 ans. Et puis, on a de temps en temps des surprises. Des Éthiopiens. Mais notre surprise vis-à-vis des Éthiopiens, c'est rien à côté de la surprise des Éthiopiens. Et ils n'ont pas fini d'en voir le pauvre. Et puis ce matin, je vais m'entendre encore à la radio qu'il y a encore une équipe de rabbins qui est dans le nord de l'Inde, qui est en train de chercher d'autres tribus, qui sont d'ailleurs cherchées depuis pas longtemps, depuis assez longtemps. Et un jour, on va se retrouver avec un peuple de 30 millions d'Israéliens de plus, mais il ne faut pas attendre les catastrophes comme en Éthiopie. Et puis il va y avoir le juge de diaspora, qu'est-ce qu'on va faire d'eux, je ne sais pas. En tout cas, pour revenir à notre problème, en fait, et en filigrane, mais en sous-jacent à cette grande catégorisation qui est schématisée en trois phases, il y a une autre catégorisation. C'est la diaspora du premier temps qui n'est pas revenue au deuxième, et la diaspora du deuxième temps. Or, très grosso modo, dans la diaspora du premier temps qui n'est pas revenue au deuxième, vous avez les Ashkenazim, les Bablim et les Thémanim. Et la diaspora du deuxième temps, c'est le Sfaradim. Alors vous avez donc deux niveaux de définition qui se recoupent plus ou moins entre-mêmes. Ceci dit, vous avez des centaines, des milliers de communautés différentes chacun de ces. Alors les communautés dont l'origine de tradition était l'église du premier temple qui parvenait au deuxième n'ont pas forcément les mêmes coutumes et les mêmes rituels que l'église du deuxième temple. Mais 2000 ans sinon, et alors on s'est mélangé, à travers 2000 ans, il y a eu des courants d'influence. Et c'est pourquoi finalement, aujourd'hui, on se trouve devant un problème, un fait de société assez difficile à résoudre, il faudra le temps de différentes générations, de plusieurs générations, la multiplicité énorme, c'est pas 3, 4, 12 tribus, c'est des milliers de rites de communautés différentes. Et parfois, ce qu'on croit être des détails, ce n'est pas des détails. Alors avant que tout ça refasse, une société rituelle unie, il faudra énormément. En attendant la règle, et que chacun continue le rite de sa communauté. Et s'il vient d'aucune communauté, il prend le rite de son rabbin. C'est pas plus compliqué. Ça vient pas d'en avoir un. Bon, ça c'est un autre problème. Non, je veux dire un, parce qu'en général, ils en ont trop. Alors, ils ne savent pas comment s'en sortir. Ok, je vais demander quelque chose. Vous avez une question ? Il faut voir votre messagerie. Alors d'abord, ça c'est la question.
Le rite israël,
ça n'existe pas. Je suis désolé, mais ça n'existe pas. Il y a un rite Yerushalmi. Il y a un rite Yerushalmi Sfaradi, qui est un mix du rite salonicien et babylonien, plus exactement de Aram Naharaïm, Bagdad. Et c'est tout. C'est un Sfaradi particulier. Comme il a été celui des premières communautés sfarades qui se sont reconstituées après la destruction, bien que j'en ai arrêté là, le peuplement sfaradi. Et lui, ça vous montre effectivement que le rite sfaradi était le rite du deuxième temps. Et alors, il a une préférence, si vous voulez. Mais il y a beaucoup de différences avec les autres sfaradi. Mais c'est un rite israélien. Mais oui, ce qu'on appelle le rite Yerushalmi, c'est un rite de Gola installé à Jérusalem. Et c'est un rite qui est dont l'origine est très précisément connue. C'est le rite, encore une fois, salonicien babylonien, qui n'est pas du tout le rite nord-africain. D'accord, le rite nord-africain, il y en a 26 de rites nord-africains. Vous ne croyez pas que c'est que ça. Bien, par exemple, dans l'armée, on parle de Moussaf Achid. Ça veut dire le Moussaf unifié. Ça, c'est une allusion. Ça, c'est un rite Ashkenaz Tarlo, avec trois ou quatre mots de Yéménite de temps en temps, pour les Yéménites de temps en temps, pour les Marocains, et qui est une tentative d'unification du rite Sfar des Chassidim et du rite Ashkenaz des Mitnagdim. Et ils appellent ça le rituel unifié. C'est un fédéralisme Ashkenaz en plein. Je ne sais pas si vous voyez.
Ne vous trompez pas.
Oui. Oui. Keter et Sfaradim, les Chassidim disent Keter. Mais ne croyez pas que dans le rite Achid, on dit Keter parce que Sfarad, c'est parce que c'est Chassid. Vous avez compris ce que j'ai dit ? D'ailleurs, j'allais dire une blague, mais je vais la dire quand même. Ils ont des chants très doux, les Chassidim. C'est le chant Achid. Mais c'est très doux. Non, je suis entré une fois en discussion avec le Rav Goren à ce sujet, quand on a voulu rééditer la Agada de Rite Sfarad. Il m'a dit, mais pourquoi nous avons la Agada de Rite Achid, unique, et allez, on compare. La Agada Ashkenaz pure, avec de temps en temps trois ou quatre mots pour les bénéfices. c'est clair ce que Dieu. Alors il y a toute une époque de déconditionnement à faire pour arriver à faire. Je vais vous donner un petit exemple, puisqu'on parle de tout ça. Il y a 15 jours, 3 semaines, il y a eu un kénès en l'honneur du 50e anniversaire de la mort de la coupe. J'ai été épouvanté. Il n'y avait que des nationalistes. Alors que le thème, c'était « Ahdout à Kolelet », l'unité qui rassemble tous. C'était le thème de l'enseignement de la vie. D'ailleurs, il n'y avait pas que des Ashkenazis. Il y avait un Sfarad, mais ce n'est pas ce qui s'appelait Ashkenazi. Je ne sais pas s'ils ont fait exprès, je ne sais pas quoi. Ça m'a épouvanté, parce que, en général, je n'évolue pas dans les milieux de l'université. Alors, à part quelques rabbins, c'était que des universitaires. Alors, ce que je vous dis est très schématique, parce qu'il faudrait que je vous énumère les 70 conférences qu'il y a eu, mais je me suis trouvé dans une atmosphère très étriquée, très particulière, très élitiste de culture allemande. Même pas Ashkenaz global, même pas européenne globale, allemande. Et il n'y avait que ça comme évidence, il n'y avait que ça comme présupposé, comme, comment on dit ça, à la haute sauce, comme évidence médiatique. Et je suis au courant de la philosophie allemande et de ses implications dans l'histoire des juifs allemands, etc. Mais que ça, pour représenter Israël, c'était plus en plus. Je me suis dit, au Moyen-Âge, ça aurait été la même chose, mais avec l'impérialisme de Sfaradi. Ça aurait été la même chose, c'est évident. Et alors nous avons un effort colossal à faire pour nous dégager de ça. Alors au fond du rythme, ça prendra encore beaucoup plus de temps, c'est évident. Donc il ne faut pas s'impressionner. On va vers un temps où il y aura un rite hébreu-israélien, mais ne croyez pas que c'est déjà fait. Et ça prendra des générations. En attendant, chacun son rite. Bien, c'était bien. Vous comprenez le... C'était compliqué, que vous avez déjà des mariages mixtes entre vous. Il y a telle mitzvah, des minhagim incompatibles. Parce que dans le rite, ça va monter comme ça, et surtout pas comme ça, dans l'éducation, monter comme ça, et surtout pas comme ça. Alors quand c'est le mari et la femme, les enfants, on s'en sort plus. Parce qu'il y a des fois, ça porte sur des halakhot importantes. Et je vais vous donner un exemple. J'ai assisté, je n'ai pas assisté à tout d'ailleurs à ce kénès, mais c'est trop chaud. C'était la grande chaleur. Et puis j'ai assisté une fois à un colloque entre Chiyoni et Dati sur ce thème, Ahdout à Kolelet. Et là, il s'agissait d'un Dati allemand et d'un Chiyoni allemand. Pas plus, pas moins, mais pas plus. Alors, vous comprenez ce que je dis? C'est une sorte de société élitiste, j'ai pas dit mafia, mais ça ressort. Alors je reviens au sujet, vite. Donc ce qui est grave, c'est que c'est l'image que la société israélienne se donne et donne à l'extérieur, on croit qu'elle est. Et alors ce sont des problèmes caduques. C'est des problèmes qui agitaient l'humanisme allemand du 18e siècle. Pas plus, on ne sort pas de là. Vous voyez à peu près de ce que vous parlez. C'est catastrophique. Allez, envoyez un autre. Bon, ça veut dire qu'ils sont enfermés dans une problématique qui était celle de ceux qui sont arrivés pour fonder le pays et ils n'arrivent pas à se sortir de cette problématique-là. Pour eux, l'évidence culturelle, c'est celle-là. Il n'y en a pas. Alors, il y a des progrès. Bon, on n'est pas à un cours de sociologie israélienne, mais enfin, quelques phrases là-dessus. Il y a quand même des progrès. Mais je vais vous faire un petit flash. Par exemple, la Chazanout. Alors, pour la culture israélienne, la Chazanout, c'est la Chazanout Ashkenaz. Alors, quand même, il y a des concerts où il y a aussi des sparadigmes. Alors, on vous met Chazanout plus folklore sparad. Imaginez l'inverse, comme être Chazanout et ses sparad plus folklore Ashkenaz. Mais, vous savez, moi j'ai flairé dans les deux milieux. Vous devinez pourquoi, mais enfin. Donc, et alors, je peux vous dire que c'est un conditionnement. L'idée que ça peut être autrement, c'est sur notre planète. Il faudra du temps avant que ça se déconditionne. Est-ce que c'est clair ce que je dis? En plus, il paraît que je ressemble à un Ashkenazi, ça doit venir de mes ancêtres, qui sont autant qu'ils sont Ashkenazi d'ailleurs. Très souvent, je me fais accoster sur le chemin du Kotel en yiddish. J'ai beau expliquer que c'est pas de ma faute, mais je connais pas yiddish, je connais là-dedans. Personne ne veut me croire. Alors, il m'arrive, une fois d'ailleurs, j'ai eu une altercation avec un chauffeur de taxi. Il m'a dû prendre pour sympathique, et puis il m'a fait la conversation en yiddish dans le taxi. J'avais beau l'expliquer, il croyait que je me moquais de lui. Et alors, une fois, j'étais donc dans une des commissions de l'éducation, du ministre de l'éducation, et on m'a pris pour un Ashkenaz dans la commission, alors on parlait devant moi. Ce que j'ai entendu, j'ai attendu jusqu'à la fin pour la vie de ça. Alors j'ai réveillé au problème. Mais il faut m'impressionner. C'est pas du racisme d'essence. C'est des réactions en situation. Et si nous connaissons l'histoire du Moyen-Âge, si le Moyen-Âge aurait été l'inverse, ça aurait été l'inverse. Je veux dire, ça aurait été un pérennisme, ça, sans aucun problème. Vous avez compris? C'est-à-dire que ce sont des phénomènes de société humaine. Mais il faut vraiment du temps pour ça. Beaucoup de temps pour cette condition. Oh. Et alors, je reviens à vous. Au terme. Béaya. Vous allez voir que c'est une introduction pas improvisée. Pas Béaya qui t'avouait la reste. Ça arrivera quand tu arriveras dans le pays. Alors, j'ai lu le texte, comme d'habitude, simultanément en hébreu et en français, et essayer de développer un thème du premier texte. J'aurais voulu avoir le temps de vous choisir un autre passage que le début, parce qu'il me semble qu'on l'a fait l'année dernière. Enfin, vous m'excuserez, la chaleur et tout le reste, alors on va en français. S'il nous reste du temps, on me lira la parasha, n'importe où. Alors, suivez bien, et essayez d'avoir des questions. Connaissez cette histoire qu'on raconte des yeshivas lituaniennes. À 2h du matin, il y avait un apôtre yeshiva qui se baladait éploré dans les couloirs de la yeshiva. Donnez-moi des questions, moi j'ai des réponses. Alors, ça ressemble à ça. Non, c'est un lituanien. Là, sinon il aurait fait grave sur l'autre. Allez, on revient à ça. Réa, qui caro est la haret. Et il arrivera. Qui caro est la haret. Lorsque tu viendras, il faudrait d'ailleurs lire, lorsque tu iras, je reviendrai sur ce mot tout à l'heure, à la fin du verset, et la haret. Vers le pays, Asher Hashem Elokecha, Noten Lecha. Que Hashem ton Dieu te donne. Je crois que là, il y a ici un thème important, mais je vais me borner à l'indiquer pourquoi le texte, si souvent, emploie cette expression-là. Le pays que Hashem Elokecha te donne. C'est déjà dit 100 fois. Et je crois qu'il y a deux choses importantes. De ne pas oublier que ce pays n'est à nous que parce que Dieu nous l'a donné. Et vous devinez déjà le monde de problèmes que ça implique. Et certains d'entre vous ont peut-être assisté à la télévision hier soir ou hier soir au débat à Biden. Moi j'ai pas assisté. Mais en me basant sur ce que je sais de ce qu'on a l'habitude de dire les trois, à Baïven, Rosenberg et Rablao, je peux un peu deviner comment ça s'est passé. Le vrai problème, c'est que c'est la seule. Tu vois ce que je veux dire? C'était ce problème-là. Le jour où Baïven arrivera à dire les choses comme elles sont écrites, nous aurons un diplomate de plus. Pour le moment, nous aurons un diplomate de moins. Et ça c'est pas le texte Ah, tu veux dire dans la sidra qu'il a fait? Ça je ne sais pas, mais en tout cas je connais un peu sa position. Si j'avais assisté, je n'en parlerai plus, ça vaut la peine. Le vrai débat est... Hein? Le vrai débat est là. Il y a eu une éclipse du contenu de la tradition juive chez des intellectuels de ce profil, je pourrais dire, c'est un grand intellectuel, à Bayern, il n'y a pas de doute. Dans le contenu, mais pas dans la forme. Ce qui fait que dans la forme qui est commune à tous les juifs, le contenu est complètement étranger. Mais il n'arrive pas à s'entendre. Il faut une rééducation. Je crois que ce qui manque chez les juifs, en général, c'est une beaucoup chose de leur histoire, c'est que il y a une difficulté à entendre ce que l'autre dit. Voilà, ça peut être d'une manière, on se croit insulté si on ne répond pas. Peut-être qu'il y a des choses qu'il faut écouter et pas répondre. Une conversation. J'ai entendu du Rav Naori, le Chonoï Bracha, il y a au moins 30 ans, un chidouche sur la faute du vaudeur. Je crois que j'avais cité une année. C'est que le texte dit, au moment de la fête du Vaudor, que Moïse était sur la montagne, Josué va à sa rencontre, et qu'il se rencontre au milieu de la montagne, et Moïse demande à Josué quel est ce bruit que j'entends. Et alors Josué répond, c'est ni un bruit de victoire, ni un bruit de défaite, c'est un bruit. Et ça, c'est un thème important par le fait que ça nous explique pourquoi, sur tous les grands sujets, on n'arrive pas à trancher. Il y a pratiquement 50 lois, 51, 49, 52, 53, vous avez compris, sur tous les grands sujets. Ça commence déjà un peu du autre. Il y avait deux parties, ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre. Exactement, ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre, et ceux qui étaient contre, ceux qui étaient pour. Bon. Et cette situation nous a convaincus. Probablement jusqu'au temps messianique où nous aurions enfin une majorité qui soit une majorité qui décidait pour l'ensemble du peuple. Vous remarquez que ce problème, c'est un problème en soi. Mais alors, le Rav avait expliqué ça comme ça. Le Rav Midrash qui dit que c'est le peuple qui avait exigé que ce soit Dieu lui-même qui parle directement. C'est un sujet pour lui-même. Et donc, il a commencé à parler pour les 10 commandements, comme on dit en français, les rassurés de l'autre. Et le peuple a senti qu'il n'était pas capable. C'est pourquoi il avait besoin de Moïse pour porter la parole jusqu'au peuple. Et ils ont dit, ça c'est dans le Devarim, quand il reprend ce récit, ils ont dit à Moïse que Dieu te parle à toi et toi tu nous parles, sinon on va disparaître. Et alors, il y a ce thème important que, en réalité, il n'y a que les deux premiers commandements qui ont été entendus par tout le peuple et que les 8 autres, je dirais plutôt les deux premières paroles et que les 8 autres, Moïse les a retransmis comme tout le reste de la Torah, avec un Mahamad différent, une situation différente, le Sinaï. Et l'expression du Talmud à ce sujet, c'est Anochi velo yelecha mipi agulura shamarnu. Anochi, qui est le premier mot du premier commandement, Anochi Hashemunetecha, et Lo yelecha Elohim Achelim, tu n'auras pas d'autre Dieu, Lo yelecha, nous l'avons entendu, mipi agulura. Notre fond étudiera pourquoi, quand on dit lorsque Dieu se révèle, ça s'appelle pi agulura, lui je dirais traduire, littéralement c'est la bouche de la vaillance, mais enfin, on étudiera ça un jour, c'est dans le courant hébreu, et dans le programme général, rappelez-moi ça une fois, quand je vous demanderai de préciser les sujets, rappelez-moi ce thème. C'est très important de comprendre ça. Pourquoi ça s'appelle une pierre au roi. Et alors, alors il y a une pierre au roi chez Mahmoud, et on explique que Torah, à ton valeur numérique, le nom de Torah, à ton valeur numérique, 100. 600. Alors nous savons qu'il y a 613 commandements. C'est donc la différence. Torah qui va la nous marcher, c'est les 611 commandements. Les deux qui font en plus 613, directement on les a entendus. C'est quoi? Je reprends la formule. Anochi de l'Oyelecha. Les deux commandements de base, Mitzvah Asé, Anochi Hashem Elokecha, Mitzvah Pilota Asé, l'Oyelecha, Elohim Hashem. Quand il s'agit des folies, on dit Elohim, comme vous savez, pas Elohim, c'est l'Oyelecha. Alors le Rav expliquait comme ça. Les Hébreux répétaient ce qu'ils avaient entendu. D'où ce bruit. Alors comprenez bien, c'est un grâce très profond. Qui répétait Anochi, Lo Yelecha. Il disait, moi, tu n'auras pas. Anochi, Lo Yelecha. Il ne sera pas pour toi. Vous avez compris la situation. J'ai entendu une entrave. Enfin, ce monde ne reviendra peut-être. Mais j'ai déjà mis une Géoula, je le remarque. Qui disait, nous avons deux ennemis. L'égoïsme et l'égoïsme. Parce que ce qui me rend, c'est ça. C'est Anochi, Anochi et Loïer. Alors je crois que ceci explique un peu la situation de la société vivante en général et sa dispersion effarante. C'est une dispersion intérieure et extérieure, mais c'est effarante. Je crois qu'il n'y a aucun peuple aussi divisé que ce fameux peuple de lui. C'est aussi un thème pour lui-même. Alors, laissons la va-et-vienne à la télévision et revenons à notre verset. Première indication, « Et la haret Hashem Elokecha noten pecha. » C'est Hashem Elokecha qui nous la donne. Bien sûr, il faut l'apprendre, mais on a le droit de l'apprendre que parce qu'il nous l'a donné. Et je crois que c'est une indication très importante. Deuxièmement, c'est le verbe qui est employé, donner, pas promis, donner. Ça veut dire elle est déjà donnée. Et vous voyez, vis-à-vis de quoi ces deux indications portent, c'est-à-dire, pour la première indication, c'est clair. Pour ceux qui disent que c'est nous qui la prenons, c'est nous qui décidons quel est à nous, et donc c'est nous qui déciderons de nos frontières. Et les frontières, ça peut être la plage de Tel Aviv, pas plus. Parce que si on continue comme ça, ça va arriver là-bas. Et puis la deuxième, c'est pour ceux qui disent, ah, elle ne nous est que promise, il faut la mériter. Et peut-être ce deuxième thème mérite d'être beaucoup plus analysé. je vais très rapidement, le texte dit qu'il vous l'a donné. Il faut l'apprendre, mais il vous l'a donné. Elle n'est pas à mériter. Vous comprenez les implications du problème. En tout cas, à notre temps, il est évident qu'on ne pouvait pas y arriver, et maintenant on peut. C'est donc que ça s'accomplit. C'est clair ce que je dis. Je vous rappelle ce que m'a dit souvent le Rav Aviner, et à sa manière, que pendant 2000 ans, il y avait un mur entre Israël et le peuple d'Israël. Et ceux qui ont oublié ça ne comprennent pas ce qui se passe aujourd'hui. Il y avait un mur, on ne pouvait pas. Ou alors il disait à sa manière, et il cite un enseignement du Rav, mon Dieu était fâché avec nous. Tous les essais, les tentatives qu'on a pu faire pendant 2000 ans, c'est inouï, ça ne marche pas. Vous donnez des images suivantes, vous rappelez sans doute, une muraille, et bien pour essayer de la faire tomber, on prend un bélier, on se protège, et puis on essaye de la faire tomber. On essaye, ça ne marche pas, on se retire, on recommence. Alors, il racontait, ce que le Rav avait enseigné une fois, qu'on a fini par s'habituer à ça. Un bélier le matin, un taureau le soir. Vous connaissez le texte. On s'est habitué à ce mouvement et on ne s'est pas perçu qu'entre-temps, subitement, en 48, enfin en 5708, la muraille est tombée. Et on continue et on appelle ça la muraille. Vous savez. Faire du tourisme, okay. Je viens, je m'en vais, je reviens. Je crois que c'est la forte inertie qui dit. C'est qu'on a mis une telle charge pendant 2000 ans dans ce geste-là que. Alors, je crois que cette deuxième indication pour la même est très importante. Asher, Asher, Lokecha, Noten, Lecha, Nahala, en héritage, Virishta, et qui en héritera, mais ce n'est pas le même mot. Virishta, ça veut dire qu'il la possédera en la peuplant. Ve'achar tabai, qui t'y installera. Vous voyez donc les différents niveaux de l'enseignement. Alors, ce qui va arriver, c'est le rite de ce qu'on appelle, à propos de Shavuot, la fête des prémices. Et regardez bien comment ce rite de la fête des prémices, on sait que c'est les prémices, on va apporter les premiers fruits en korban, en mincha, en offrande. Comment ce rite de la fête des prémices est introduit par ce verset-là. Et je vais citer en particulier un des enseignements que le Rav Hazan avait une fois cité dans l'étude d'Ayli de Shavuot, qui est dans l'enseignement du Talmud. Vous l'avez un peu expliqué à sa manière, je vais reprendre cet enseignement-là. Voilà comment la Torah s'écrit. « Vela karta mi reshit kol peri adama » Et tu prendras, reshit, c'est le commencement de la prémisse. Est-ce qu'au féminin les prémices ? Oui. « Kol peri adama » de tous les fruits du sol, à Shertavine et Artsecha, que tu amèneras de ton pays, pourquoi Adama j'ai traduit le sol, parce que Artsecha c'est ton pays, à Serachem, le Shran, enfin là, encore une fois, Serachem ton Dieu te donne, les sommes tabatenées, et tu les placeras dans un panier, de Anarfa et Lamakom, tu iras à l'endroit, plus tard on va savoir que c'est parti du roi David, on saura que c'est Jérusalem. Que Hachem ton Dieu aura choisi de chaque Hachem au Sham où il fait résider son nom là. Peut-être qu'en même temps on reviendra sur cette expression qui est importante, c'est une des sources du mot Shekhina. Le Shekhen, c'est le verbe dans le substantif de Shekhina, c'est-à-dire présence dévoilée, faire résider. Et qu'est-ce que ça veut dire faire résider son nom? Déjà, je voudrais étudier en y revenant.